gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, dimanche 22h, Radio Canu, c'est La Causerie. Et d'abord, on va commencer par saluer les copains qui sont avant nous maintenant de Bamboo Station. Voilà, ça vous fera un peu de son différent que les bandes continues que vous aviez d'habitude. Voilà, voilà. Et donc autour de la table et dans le studio ce soir plutôt, c'est mieux. Nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Stan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab.
Eh ben salut. Voilà. Et si toi, t'as envie d'écrire à La Causerie, eh ben, il faut écrire à lacauseriecanu@gmail.com. Et si tu veux réécouter les émissions, il faut aller sur le blog. Qui c'est qui veut donner le blog?
Alors, je crois que c'est blogs.radiocanu.org.
/la causerie.
C'est voilà. Blog avec un S. Blogs.
Ou alors vous allez sur les blogs de Radio Canu et vous trouvez tout ça. Et sinon, on est aussi sur Facebook. Voilà, on a une page. Mais alors là, écrivez-nous pas par là parce que voilà. Donc si vous voulez vous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Oui, ça fait vraiment les gens qui ont pas envie de s'emmerder avec Facebook, mais c'est 100% ça en fait. Hein, voilà. Et donc, une causerie un peu habituelle ce soir avec trois sujets abordés. Et on va commencer avec toi, Jean-Yves, qui voulait nous parler du cannabis à l'amande. C'est ça le meilleur goût?
Il est mis à
l'amande. Merde, j'avais pas compris.
Oui, on se creuse vraiment fortement les méninges pour vous divertir le dimanche soir avec le titre de nos rubriques.
C'est une blague dingue.
Oui, complètement. Waouh. Voilà, j'espère que tout le monde s'en est remis. Hein. Donc là, on va parler effectivement de ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, que vous connaissez, ami lyonnais et lyonnaise, qui s'appelle Gérard Collomb.
Le grand G.
Oui, c'est ça, un ancien baron lyonnais, qui est maintenant donc ministre de l'Intérieur et qui a annoncé mercredi 24 mai, sur les ondes d'une radio, voilà, une grande radio, la mise en place dans les prochains mois, certainement avant la fin de l'année, de contraventions pour usage de drogue. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'usage de drogue, toutes les drogues illicites, hein, du cannabis à l'héroïne, est passible, donc son usage est passible d'1 an de prison et 3 750 € d'amende. Donc, qu'est-ce qu'il a dit notre ministre de l'Intérieur? Il a dit, je cite, ce que dit Emmanuel Macron. Alors, il le dit un peu plus mal, hein, parce que vraiment, il parle vraiment très mal.
Gérard Collomb,
c'est terrible. Tu te demandes comment ce gars-là fait autant de carrière politique alors que personne ne le comprend. Enfin bon.
Ouais, justement, il ne faut pas le comprendre de faire carrière. Ouais. C'est comme ça que ça marche.
Pardon, je m'éloigne complètement du sujet. Donc, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, hein, a dit « Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on peut dresser une contravention tout de suite. Parce que le problème, c'est que lorsque quelqu'un est arrêté pour un trafic de stupes, il ne se passe rien. Deux jours après, il revient dans son quartier et il refait le même trafic. » Alors déjà, justement, je trouve qu'on peut déjà constater le trouble qu'il y a dans ces déclarations. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de consommateurs et de consommatrices? Est-ce qu'on parle de trafiquants, trafiquantes? Ou est-ce que dans l'esprit de Gérard Collomb et tous ses copains du gouvernement et ses copines du gouvernement, est-ce qu'un consommateur est forcément un trafiquant, une consommatrice, une trafiquante? Enfin bon, donc voilà. Alors je continue avec ce qu'il a déclaré, hein. Il a dit... qu'on voit de plus en plus d'ailleurs qu'il y a une articulation très forte entre trafic de stupéfiants, trafic divers d'ailleurs, et terrorisme. Voilà.
Faut toujours caser terrorisme dans une phrase, ça passe.
Ça fait bien.
C'est exactement ça. Alors,
ça rend crédible.
C'est exactement ça. Alors c'est effectivement, moi, je vais pas vous dire là que c'est absolument faux, que le trafic... de cannabis serait pas lié avec je ne sais pas quoi, c'est, j'en sais rien en fait, hein, parce que les gros bonnets de la drogue, enfin c'est pas que j'en sais rien, c'est qu'en tout cas je pense que de toute façon les gros bonnets de la drogue sont des capitalistes, sont des pourritures capitalistes comme les autres, quand on sait à quoi ils sont capables de couper leurs produits pour en vendre plus, etc. Oui, ils sont juste des gros capitalistes, sans éthique, sans morale.
Donc, comme les marchands d'armes, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, ça bon, bah voilà. Et par contre, ce que je me suis dit, c'est que moi, je proposerais bien quand même à Gérard Collomb, on va peut-être l'appeler Monsieur Collomb, hein, et ça clique, bah, de regarder ce qui se passe un peu autour du pétrole, par exemple. Parce que le pétrole, il peut aussi, des fois, financer le terrorisme. Ou aussi autour du ciment. Je dis ça vraiment, je ne vise absolument personne. Hein. Bon, quand même un petit peu. Ou aussi autour du marché de l'art. Parce que je sais, si vous avez l'occasion un peu de temps en temps de vous renseigner, mais enfin, combien d'œuvres en fait quand même sont issues de marchés, de circuits dégueulasses, sans éthique, pilleurs de culture, fournisseurs d'argent pour les réseaux les plus crasseux. Enfin, on le sait quoi. Donc c'est toujours très drôle quand même. Et puis ça m'est revenu en préparant ça, c'était justement, je me disais, souvenez-vous, vous savez la chute de Palmyre, qu'est-ce qu'on disait? On se disait, oulala, il y a des pierres de Palmyre qui commencent à circuler sur les marchés. Donc, je sais pas moi si c'est le consommateur ou la consommatrice de cannabis ou d'autres drogues qui est la plus dangereuse, ou le bourgeois, la bourgeoise qui aime à claquer son argent dans des pierres venant de pays pillés, etc. Je sais pas vraiment. Voilà, je vous laisse réfléchir autour de tout ça. Hein, donc ça, c'était tout pour les déclarations de Gérard. Il en a déjà dit pas mal, hein, je trouve. Et par contre, le vendredi 26 mai, c'est le porte-parole du gouvernement qui s'appelle Christophe Castaner. Et il est revenu sur cette proposition pour y apporter des précisions. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, même eux, que Gérard était un petit peu large dans ce qu'il disait.
Mais le grand G, il est toujours large. T'as remarqué, ouais. C'est...
Il faut toujours passer derrière. C'était déjà vrai dans les années 80. Ce porte-parole du gouvernement a déclaré « L'année dernière, 180 000 personnes ont été constatées en infraction d'usage de stupéfiants. En moyenne, déclare-t-il, c'est 6 heures de procédure pour le policier ou le gendarme et autant pour le magistrat chargé du dossier. In fine, il y a 20 000 rappels à la loi ou injonctions thérapeutiques. Est-ce que le système est efficace? Non. Il continue, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être efficace et surtout de désengager du temps de travail de nos policiers et de nos gendarmes pour qu'ils soient plus présents sur des affaires essentielles. Donc, on ferme les guillemets, hein, de ce qu'il a dit. Donc en fait, on ne vise pas vraiment le changement de rapport aux drogues, aux consommateurs, consommatrices. On ne parle pas non plus santé publique. Hein. Parce que je veux dire, quand même, le problème, c'est toutes ces merdes, effectivement, qui circulent. Mais non, on ne parle pas de ça non plus, en fait. On parle de, ah bah, de finance, bah oui, et d'efficacité.
Bah, c'est
beau,
quoi.
C'est beau l'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est tout et c'est rien, en fait.
On aurait pu dire rendement.
Oui, ouais, je pense que c'est ça. En
mais
fait.
Il n'a pas osé.
C'est ça. Ça se voyait trop qu'il faisait trop businessman. Et bon, on s'est dit non. On n'est quand même ni de gauche ni de droite.
Mais de
alors
droite.
Bon. Faudrait pas déconner. Donc, pardon, je me perds dans mes notes. Donc, effectivement, et ce qui est dit, c'est que finalement, la répression à coups de flics, à coups de tribunaux, en fait, elle sert à rien et elle a jamais vraiment servi à grand chose.
Ça, c'est pas une grande nouvelle, on le sait, quoi.
Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même sympa d'apprendre aujourd'hui, en 2017, que ceux qui sont au gouvernement sont à peu près d'accord avec ceux qui dénoncent la répression à tout va depuis des dizaines d'années, en fait. C'est bien. Ils sont en marche, ils apprennent. Mais je suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons. Et donc, par contre, ce que je me disais, c'est qu'ici, en fait, il s'agit pas d'arrêter la répression. Non. On va juste lui donner un nouveau visage. Un visage souriant, vous voyez. Parce que la déclaration, la suite des déclarations du porte-parole, hein, donc M. Castaner, ne dit pas autre chose. Il dit, la contravention, ce n'est pas la dépénalisation. Il a insisté, M. Castaner, rappelant qu'Emmanuel Macron n'a pas souhaité ouvrir ce débat-là, car consommer des stupéfiants reste grave et dangereux pour la santé.
Ouh.
Je ferme les guillemets. Vous avez donc bien compris, rien ne change, les stupéfiants, c'est mal. Vous voyez?
Oui.
Pour ceux qui connaissent ça,
c'est tellement bien.
Vous voyez? Donc c'est vraiment mal, attention. Alors là, encore une fois, hein, on fait pas appel à la réflexion, non, surtout pas, à l'analyse, encore moins, aux analyses médicales et aux travaux médicaux qui ont déjà été entrepris et de recherche, etc. Et qui sont pourtant très clairs lorsqu'on parle de classement de substances, alcool, tabac y compris. Et il faut quand même savoir que ces deux derniers, donc alcool et tabac, sont quand même classés au même niveau que les héros, hein, c'est-à-dire avec une dépendance physique et psychologique.
Ce que n'est pas le cannabis.
Ben non. Voilà. Donc je me demandais, est-ce qu'on va bientôt mettre des amendes aux buveurs d'alcool ?
Non. Bah, on appelle ça une taxe.
Ah oui, c'est ça. donc encore pareil. Une fois, moi je pense pas qu'il faille... Enfin, qu'il faille sanctionner qui que ce soit, pas plus les buveurs d'alcool que les fumeurs et les fumeuses de joint. Mais voilà, c'est une méthode qui doit sûrement être, comment il a dit, efficace. Efficace. Donc voilà. Donc je voulais juste terminer par quelques rappels quand même. C'est qu'en France, en 2014 en tout cas, il y avait 17 millions de personnes qui disaient avoir déjà pris du cannabis dans leur vie et 700 000 qui en consommeraient quotidiennement. Donc ces chiffres, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Donc c'est quand même intéressant, hein, quand on voit après, ça donne un relief en fait à ceux qui sont peut-être un jour sous le coup d'une potentielle amende.
D'ailleurs, je pense que ces chiffres sont minorés. Hein, honnêtement.
Oui, je pense aussi. Alors, si je voulais quand même donner un autre avis, c'est celui de l'UNSA Police, qui est favorable à une simplification des procédures pénales, hein, parce qu'ils ont vraiment salué cette décision, estimant que les procédures habituelles concernant les usagers de drogue se révélaient jusqu'à présent trop lourdes et trop chronophages. Donc voilà, et qu'en fait, ils terminent par les mêmes phrases que l'autre en disant et en plus, ces méthodes, elles n'ont jamais vraiment démontré la moindre efficacité en matière de lutte contre les trafics. Donc là aussi, c'est quand même vachement bien, merci de nous l'apprendre. Et chez les magistrats, c'est un autre son de cloche quand même. Il y en a une qui dit, c'est Virginie Duval, qui est de l'Union syndicale des magistrats, qui dit ça ne va pas changer grand-chose et ça ne va pas désengorger les tribunaux. Parce qu'effectivement, je ne pense pas que ce soit le plus gros non plus de tout ce qu'il peut avoir. Et puis le manque de personnel, c'est le manque de personnel en fait. Hein. Et de tribunaux, tout ça, tout ça. Et il y en a une autre qui est de... C'est Clarisse Taron qui est la présidente du syndicat de la magistrature qui dit « Si c'est pour avoir une sanction financière systématique sans autre réflexion, ça n'aura aucun effet. Ça fera des sous dans les caisses de l'État, mais ça n'amènera pas à réfléchir sur votre consommation. » Et encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, c'est que ça ne change absolument rien au rapport, etc. qu'on a avec les gens.
Ça doit faire un paquet de fric d'ailleurs.
Je vais y venir.
Ah ouais.
Tu es un petit peu pressé.
Oh,
toi.
Pardon.
Alors finalement tout ça pourquoi ? C'est la grande question. Alors moi perso je pense effectivement pour le fait que jusque là enfin il y a peu de personnes en fait qui vont jusqu'à être traînées devant la justice pour consommation de drogue.
Malheureusement il y en a.
Oui il y en a.
Il y en a même
sans
taule d'ailleurs. Donc,
j'ai vu en 2012 il y en a 1200 qui sont passés devant la justice. Quand on regarde par rapport aux 700 000 qui sont censés être consommateur quotidien. Vous voyez, il y a un truc qui... Donc, je me suis dit qu'en fait, les amendes, elles vont permettre de concentrer moins de monde, en fait, sur ce sujet. C'est-à-dire moins de flics qui vont travailler dessus, moins de magistrats, etc. Par contre, ça fera plus de gens qu'on pourra sanctionner plus rapidement. Parce que finalement, il suffira de trouver un ou une fumeuse dans la rue, bam, je t'aligne, et derrière... C'est du fric direct, tout de suite dans les caisses de l'État.
En notant d'ailleurs que selon le type d'infraction qui sera retenu par le nouveau ministre Collomb, ça pourrait aller jusqu'à être mis par la police municipale. C'est-à-dire qu'il y a certaines infractions qui peuvent être constatées par la police municipale. Donc du coup, vous augmentez la rentabilité de votre taxation des fumeurs.
Alors rentabilité, je sais que tu as parlé de somme après, etc. Mais si on prend l'État comme une entreprise... Ce qui est un petit peu en cours en ce moment.
C'est ça.
Pour l'État et pour les flics, tout ça, ça donne pas envie d'arrêter le trafic.
Bah, clairement.
Ça donne juste envie de se mettre en face du trafiquant, d'attendre que les gens passent et les taxer les uns après les autres.
Mais bah, oui. C'est ça. En plus, tu as dit exactement ce que je voulais dire. C'était que non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est un pays qui est géré comme une entreprise. Un minimisation des dépenses pour une maximisation des profits. C'est ce que fait L'Oréal, c'est ce que fait toutes les grosses boîtes. Et Monsieur Macron va donc, et ses copains, hein, il n'est pas tout seul, jamais tout seul, bah, ils vont faire pareil, en fait. Et ça, c'est génial. On est toujours dans un état capitaliste, ça ne change rien, même s'ils sont en marche. Ils restent dangereux. Et je voulais terminer quand même par ce petit calcul rapide. Justement, tu parlais avant de chiffres. Donc, on parlait de 180 000 personnes qui ont été constatées en infraction d'usage de stupéfiants. Et si on prend ce que déclarait Macron en février dans le Figaro, il disait une amende max de 100 euros. Ça fait 18 millions d'euros en plus. c'est toujours ça de prix. Là où avant, il n'y avait que des dépenses. Voilà, voilà. Donc, ça ne va pas changer nos vies. Hein. Si, ça va les changer. Bah, si. Donc, voilà, bah, justement, moi, vas-y.
Ouais, puis si, puis moi, ce que je trouve grave, c'est que c'est surtout ces genres de mesures qui vont avant tout taper sur les plus pauvres et sur les mineurs. Mmh. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que bah, les plus pauvres ne pourront pas payer l'amende. Donc, eux, de facto, ils vont se retrouver à être mis en examen parce qu'ils ne pourront pas payer l'amende. Et les mineurs, c'est surtout le fameux truc où papa, maman, j'ai pris une amende parce que je fume du shit. Ça, il va falloir rentrer à la maison et dire bah, tiens, papa, maman, je fume du shit, quoi. Et en fait, ça, c'est totalement contre-productif et c'est même dangereux parce que du coup ça peut entraîner des besoins de trouver du fric pour éviter justement de devoir dire à papa maman qui entraîneront les gamins dans des trucs bien pires que simplement fumer pénard avec trois potes sur les berges du Rhône, quoi. Mmh.
C'est ça, donc tu veux peut-être rajouter un peu.
Mais j'en ai un peu parlé pendant la prépa, je trouvais ça, si on se met d'un point de vue stratégie politique, c'est intéressant d'un point de vue stratégie politique parce que c'est vraiment le choix du alors je légalise pas parce qu'il faut pas déconner, je vais faire un entre-deux qui va rapporter de l'argent donc personne pourra jamais me le reprocher, je vais un peu dans le bon sens dans certains termes mais en disant que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ça n'a jamais été utile donc je
oui ça fait croire
j'empêche le retour donc ça va être nouveau, on va essayer quelque chose de voilà, je ramène vraiment de l'argent dans les caisses de l'État donc enfin vraiment politiquement parlant je trouve que c'est presque ingénieux parce que c'est vraiment foutre de la gueule du monde parce qu'on règle rien et on fait juste du fric, quoi.
Ouais, c'est exactement ça donc fumeurs, fumeuses, soyez attentives et attentives, peut-être encore plus dans le futur qu'aujourd'hui. Et je voulais juste terminer aussi par une petite pensée pour toutes celles et ceux qui se battent depuis des années, des décennies, pour les dépénalisations, pour la légalisation, et aussi une pensée pour toutes les malades et tous les malades qui, illégalement, parce qu'il n'y a pas le choix, se soignent aussi, ou en tout cas atténuent les souffrances qu'ils et elles peuvent avoir, et qui se retrouveront toujours bien seuls face à l'État répressif et policier. Voilà, voilà, j'en ai fini.
Et écoutez Cannabis Circus sur Radio Canu.
Mais oui, tout à fait.
Bah oui, quand même. Oui. Si vous voulez des bonnes infos sur justement toutes les thématiques autour du cannabis, n'hésitez pas.
C'est vrai. Eh ben, on passe à la musique ? Allons-y. Et on est de retour dans la causerie sur Radio Canute, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter Phil Astin et Nova. C'est la chanteuse Nova. Et Phil Astin, c'est donc le DJ. Et le titre, c'est Phenomena. C'est issu de leur nouvel album qui est sorti au mois d'avril. Et c'est, je vous ai déjà passé quelques titres d'eux. C'est très conceptuel autour de l'exploitation de l'humain par l'humain, autour de sa libération aussi. Enfin, c'est toujours très bon. En tout cas, moi, j'aime beaucoup.
Ils ont un début super space. Hein.
Oui, moi, je croyais que ça buguait.
On a tous cru que ça buguait. Ouais.
On s'est dit, mais
c'était bien.
Ben ouais, c'était bien. Et avant que je passe le micro à Stan, je voulais juste rajouter l'info sur Cannabis Circus dont Fab vous parlait avant. Donc Cannabis Circus est une émission sur Radio Canu, c'est l'émission du cirque, et c'est tous les lundis de 21h à 22h sur l'antenne de Radio Canu. Et il y en a aussi une émission sur l'antenne de Radio Libertaire à Paris, c'est la fumée dans le poste.
Voilà.
C'est le dimanche à 18h ou 17h30, je crois bien.
C'est ça.
Et voilà, on a fait de la retape pour tout le monde. Et ben je passe le micro à Stan qui va nous causer d'Aaron Schwartz.
C'est tout à fait ça.
Schwartz.
On va dire Aaron.
Okay. Hein.
Non, alors voilà, moi je vais vous causer un petit peu de Aaron, je redire, donc Aaron Schwartz ou S-W-A-R-T-Z. Voilà. Donc Aaron, en fait, pourquoi je vais vous parler de lui? C'est un informaticien, c'est un écrivain, c'est un meneur politique, c'est un activiste américain. Pour le petit fun fact, c'est un activiste, pas activiste. C'est avec un, enfin avec un H, le hacker. Donc c'est un hacktiviste. Voilà. Je vais vous faire la bio de ce mec. Il est mort en 2013 et c'est quelqu'un d'assez important sur certains domaines. C'est un grand partisan en fait de la liberté numérique. Il a beaucoup travaillé pour la défense de la culture libre, en fait, ce qu'on appelle la culture libre, c'est que justement tout doit être accessible à tout le monde, les logiciels, l'information, tout ça doit être vraiment répandu au maximum. Et il était convaincu que la connaissance, justement, c'était un moyen de s'élever, de partager, de pouvoir justement passer et avancer, et qu'on puisse avancer tous ensemble en partageant notre connaissance et pas en la gardant chacun pour soi. Il était excédé par le fait qu'il y ait des entreprises ou des entreprises privées qui gardaient des informations pour elles justement et qui ne la donnaient qu'au compte-gouttes, qu'à des personnes spécifiques. Ça l'énervait au plus haut point, c'était vraiment contre ses convictions. Je sais que Fab sourit parce qu'il va en parler un petit peu après. Il vous parlera de ça plus globalement, de notre pensée sur le sujet. Je vais faire un petit récap un peu rapide de tout ce qu'il a fait pour vous donner un peu l'idée de qui est Aaron. Aaron, donc on peut vraiment clairement l'appeler, c'est un petit génie de l'informatique. Hein. À 12 ans, il a créé une encyclopédie participative un peu comme Wikipédia, mais 2 ans avant Wikipédia. Il recevra d'ailleurs un prix pour ça, un prix qui récompense des jeunes qui ont créé des sites non commerciaux, utiles, éducatifs, collaboratifs. Ça lui a permis de faire des rencontres avec des gens au MIT parce qu'il a été invité. Enfin voilà, il a fait plein de belles rencontres à ce moment-là. À 14 ans, il participe à la création du flux RSS. Donc c'est quand même une techno qui permet de recevoir les mises à jour des sites en temps réel. Donc là, on est encore dans son optique à lui de partager l'information, en fait, qu'elle aille partout directement.
Et vous pouvez vous abonner au flux RSS du blog de l'émission. Je voulais la caser.
Ça n'existe bientôt plus, les flux RSS, ne vous inquiétez pas. Nous sommes les derniers, quand même. Je cherche sur Internet, il n'y a plus de flux RSS. C'est faux, c'est une merveilleuse technologie, c'est génial, mais qui a tendance un peu à disparaître. À 15 ans, il participe au lancement des Creative Commons avec Laurence Lessig. Donc lui, c'est un... Alors là, le mec, on revient. Aaron, il a 15 ans en ce moment-là. Il se fait prendre un peu sous son aile par un professeur de droit d'Harvard qui est spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et qui est un des grands penseurs d'Internet. Aaron va être aussi pris sous les ailes des plus grands penseurs en fait, d'Internet, tous ceux qui ont été réputés comme les créateurs d'Internet. Vraiment, c'est un petit génie qui avait une vision, qui avait une idée, une idéologie par rapport à Internet qui était très intéressante. Les Creative Commons, donc c'est une association en fait, à but non lucratif, bien entendu, encore une fois, et qui a pour but de proposer des solutions légales aux personnes qui souhaitent libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle. Parce qu'il y a déjà des complications, parce que dans chaque pays des fois il y a des lois qui s'imposent en fait par-dessus le choix de l'artiste. Et donc là, grossièrement, c'est des sigles qui nous permettent de savoir si l'œuvre elle peut être reprise entièrement, partiellement, est-ce qu'il faut indiquer l'auteur, est-ce qu'on peut que ça peut être à but commercial ou pas, enfin voilà. Là encore, il est quand même dans l'idée, il a la notion du fait que tout ne peut pas être libre. tout. Voilà, il y a forcément des gens qui ont besoin de gagner leur argent par rapport à tout ça. Il y a, voilà, mais il faut permettre aux gens qui ont envie de donner de la liberté, donner tout ça, leur donner les possibilités, les clés. Il va travailler, bon ça c'est anecdotique, il travaille sur Reddit, qui est un des plus gros forums encore maintenant, qui fait un petit peu de drama ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Reddit, beaucoup trop de choses, c'est un peu la partie sombre en internet. il part quand il y a le rachat par un gros groupe en fait qui rachète Reddit, il part pour incompatibilité de principe. C'est étonnant. Toujours dans une optique de rendre Internet un peu plus accessible, il crée un outil qui permet de faire des sites très très basiquement, très simplement, mais il est dans une idée de bah, j'ai une connaissance, je vais la mettre sur Internet, mais j'ai pas de connaissance informatique. C'est vraiment un truc tout con. Tu rentres un titre, tu rentres ton texte, tu fais entrer et hop, c'est en ligne, quoi. Donc bah voilà, c'est toujours dans son optique à lui de partager. Et il participe à l'élaboration des W3C. Alors là, je vais prendre un tout petit peu plus de temps. Les W3C, c'est, ça a comme démarche, en fait, un seul web partout et pour tous. Je vais revenir un petit peu dans le temps. C'est, à l'époque, on avait Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, etc. On les a toujours. Mais à l'époque, ils avaient un truc absolument génial, c'est qu'ils ne... Il y avait un même langage web, donc HTML, CSS, etc. C'était écrit de la même manière, mais c'était pas compris de la même manière par les navigateurs. C'est-à-dire, si on disait, bah, ma marge, elle est de 10 pixels à gauche, et Internet Explorer va se dire que c'est à partir du début du bloc, Chrome va dire que c'est à la fin du bloc. Donc en fait, c'était une galère complète pour qu'on puisse afficher la même chose chez tout le monde. Mmh. C'était des heures et des heures de boulot complètement inutiles et débiles, en fait, juste parce qu'ils s'étaient pas mis d'accord. Donc les W3C, c'était ça, c'était créer un consortium international des bonnes pratiques, en fait, sur tout ce qui est langage web. Mmh. Et c'est vraiment d'actualité, c'est respecté, les navigateurs maintenant ont plus ce défaut là parce qu'ils respectent ça, en fait. On a créé des nouvelles normes HTML5, tout ça, c'est en respectant les normes W3C, donc c'est vraiment...
C'est en application.
C'est réel. Okay. Il a aussi participé à l'élaboration de l'Open Library. Open Library, c'est un projet qui vise à cataloguer tous les livres qui sont publiés. Donc c'est un très très gros projet. Actuellement, il y a 30 millions de contenus sur 6 millions d'auteurs différents qui sont mis en accès libre, bien entendu, sur une base de données libre d'accès. Il a également créé SecureDrop, c'est une plateforme pour les lanceurs d'alerte qui est sécurisée, qui est utilisée par le Guardian, par le Washington Post, etc. Parce que lanceur d'alerte, ça peut être un journaliste aussi, c'est pas que des... comme on a des Snowden, etc. On a plein de choses.
Et d'ailleurs, SecureDrop, c'était dans l'affaire Snowden.
Exactement.
Là, ça a été utilisé, qui a permis d'éviter que les documents soient pompés.
Totalement. Mm. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour dire que c'est un mec qui a beaucoup bossé pour la liberté d'expression sur Internet, sur la facilité d'utilisation d'Internet et de la compréhension, sur le partage. C'était ses valeurs, c'était ce qu'il défendait. Donc il est mort à 26 ans. Parce que tout ça, ça fait quand même beaucoup pour un mec qui est mort à 26 ans. Moi, je trouve ça assez bluffant. Il s'est suicidé dans sa chambre parce qu'il a été inculpé par les procureurs des États-Unis et qu'il encourait une peine de 35 ans de prison et $1 million de dollars de dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, pendant des années, il s'est fait harceler par le FBI par rapport à une affaire. Donc, il était accusé d'avoir téléchargé 4,8 millions d'articles scientifiques. Il a téléchargé ça sur une plateforme qui s'appelle JSTOR, qui est une plateforme, c'est une espèce de grosse bibliothèque privée qui ne donne cet accès-là qu'à des universités qui payent. Donc c'est déjà pour avoir accès, il faut être dans une université qui a payé, donc on est encore là. Fab en parlera plus globalement après, mais toujours en
non,
cette tête.
Non, pas forcément, mais par contre, on peut renvoyer les gens à l'émission qu'on avait fait avec Controversience, où on avait beaucoup parlé de ce sujet-là, du prix de la connaissance.
Voilà, et ouais. C'est grave. Enfin, voilà, on va pas revenir là-dessus, on défend ça de manière générale, mais c'est quand même très grave. Donc, on n'est pas d'accord non plus. Et Aaron n'était pas du tout d'accord, forcément. Donc, lui, il a téléchargé ces fichiers-là. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes...
Et les amis, en fait, en accès libre, quoi, en fait.
Oui. Et les amis... Alors non, justement, c'était ça, le truc. C'est qu'il ne les a pas mis, il a juste téléchargé. Et il a téléchargé, il a même pas hacké le système. Pour dire, en fait, il est étudiant d'une université. Enfin, il était étudiant de l'université de Stanford, je crois, je ne sais plus exactement laquelle. Et il avait le droit d'y aller. Et pendant toute la mise en place un petit peu du procès, la société JSTOR en fait a elle-même indiqué qu'ils avaient fait exprès, ils ont fait exprès de ne pas limiter le téléchargement, d'autoriser que les gens téléchargent tout ce qu'ils veulent, en fait, qu'il n'y ait pas de gestion d'abus. Aaron, il a téléchargé de manière presque légale, dans le sens où lui, il a téléchargé avec son identifiant. Il a téléchargé, enfin, il a jamais effacé son historique. Il en avait, ben, c'était normal, il avait le droit. La seule chose qu'il a fait un petit peu limite, c'est que bah, pour aller plus vite, il allait se mettre directement dans les bases de données, dans les sous-sols du MIT. Il a branché son petit PC et hop, ça tournait avec un script Python voilà, pour que ça speed un peu. Mais il a pas hacké un système, vu que il a pas dû rentrer, il a pas dû forcer un mot de passe, il a pas dû, voilà, il a rien fait de particulier. Il a juste accéléré une procédure qu'il aurait fait à la main, qui aurait pris beaucoup beaucoup trop de temps. Donc, JSTOR porte plainte. Aaron va en garde à vue pendant 48 heures. Et Aaron, bon, bah, activiste de tout son cœur quand même, mais là, il sent que ça pue un petit peu. Donc, il dit, bon, ok, pour ce coup, j'accepte de rendre les disques durs et je ne divulguerai jamais ce que j'ai téléchargé. Ok. Donc, JSTOR bah, retire sa plainte. JSTOR, il y avait un problème, ils ont réglé le problème, ils retirent leur plainte. Et là, c'est le bureau du procureur qui dit, non. Non, il faut en faire un exemple. Et ils l'ont clairement dit. Ils l'ont clairement dit pendant tous les préparatifs de tout le procès, etc. Ils ont clairement dit que c'était pour faire un exemple. Il fallait accuser quelqu'un, il fallait accuser un hacker qui en plus n'a pas hacké pour le coup. Il a sûrement hacké plein de trucs, hein, le mec, hein, mais il n'a pas hacké. Pas dans cette situation-là, il n'a rien hacké du tout. Donc il fallait le mettre mal, le faire un exemple. Il fallait le. Voilà. Et ben Aaron, c'est une trop grosse pression, et je peux comprendre, hein, quand on est harcelé, parce que dans son entourage, il était harcelé depuis 2 ans par le FBI, donc mis sous écoute, tout ce qu'il faisait était analysé, surveillé, noté, ce qui allait un petit peu à l'encontre de toute sa philosophie de vie. En plus, peut-être 35 ans de prison, 1 million à payer, enfin voilà, c'est un peu, voilà. Donc il s'est suicidé. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a été poussé au suicide par le bureau du procureur, tout ça?
Un peu beaucoup.
Un petit peu beaucoup, mais on va pas. Ce n'est que notre idée. dans les choses intéressantes aussi quand même, c'est que le MIT, qui est culturellement du côté du libre, en fait, du logiciel libre de tout ça, là a bien rien dit, hein, parce qu'il faut pas trop se mouiller. C'est quand même l'État qui, voilà, c'est l'État qui donne pas mal de financement au MIT, donc on va pas aller trop loin, on va pas se mouiller. Donc, ce qui est aussi très grave pour une université de cette ampleur qui justement essaie normalement de défendre ça. Surtout qu'encore une fois, hein, la société qui a eu un problème, donc JSTOR, a retiré sa plainte.
Sa plainte, ouais.
Donc il n'y avait plus de plainte, en fait. C'était basé sur un fait qui était du vent, en plus. Enfin, voilà. Donc je voulais vous parler de ce mec-là, parce que j'avais envie de parler de la liberté du numérique, parce qu'on parle beaucoup dans ces éminents, dans la causerie de liberté, de tout ça, mais il y a aussi toute une liberté sur Internet qui est créée, parce que c'est quelque chose qui est très jeune. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est en réflexion encore maintenant. Je veux dire, ça, là on parle de faits qui sont entre ben, là, cette partie-là, c'est 2010-2013, mais tout ce qu'il a fait avant, c'est dans les années 2000, donc c'est encore, enfin Internet c'est très très frais, c'est très nouveau, on est encore en train de réfléchir. Il y a tout ce qui est très sombre d'Internet qu'il faut arriver à comprendre, mais voilà, il y a toute une liberté à avoir et à réussir à créer, et donc il y a des gens qui se battent pour ça. J'avais envie d'en parler d'eux aussi. J'avais envie de parler justement d'accès à la connaissance, l'importance de tout ça. J'avais envie de... Bah, tiens, au passage, il y a un chouette reportage sur la vie de ce gars et sur toute cette affaire-là, sur Aaron Swartz, qui est trouvable très très facilement sur Internet. Enfin, vous tapez son nom, documentaire, et hop. Qui est vraiment très bien, sous-titré, tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est top. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué Internet, qui a créé quelque chose qui est important dans la vie d'Internet et qui, sans qu'on s'en rende compte, a eu une influence énorme, en fait. Mais j'avais pas. Voilà, lui, c'est un petit génie. Il était sur le devant de la scène. C'est génial tout ce qu'il a fait. Mais je voulais juste ouvrir sur tout le reste, justement, sur le fait que ben, y a des millions de personnes et des milliers de personnes qui se battent chaque jour pour leur liberté, pour avoir le choix. Je pense que c'est le plus important, c'est que c'est des gens qui se battent pour avoir le choix, pour dire, bah, moi je voudrais avoir le choix de, je voudrais avoir la liberté de. Alors lui, c'était une liberté sur Internet, une liberté de partage de connaissances, des gens qui vont se battre pour la liberté d'expression, pour la liberté de dire, j'aime telle personne. Voilà. Et c'est des gens qui prennent des risques énormes et qui sont inconsidérables, qui sont impensables, en fait. Et bah, tous ces gens, j'ai envie de les applaudir parce qu'il n'y a pas de reportage sur eux. Il y a pas, on ne sait pas qui c'est, et à la fin, ils disparaissent pour certains. Et personne n'en a jamais entendu parler, et c'est dramatique. Donc voilà, j'ai envie de parler d'Aaron parce que c'est un mec génial dans tout ce qu'il a fait. Mais j'avais envie aussi de rendre hommage à tous ces gens qui font tout ça, qui font un gros travail de l'ombre et sans qui toutes ces avancées sont impensables. Parce que oui, Il y a des choses qui se passent en Tchétchénie, il y a des choses qui se passent aux États-Unis, il y a des choses qui se passent en France, il y a des choses qui se passent partout. On n'est pas dans un monde libre et que sans tout ça, on n'avancerait pas. Donc, ben merci à eux. Voilà.
Et ben voilà.
Bah, que dire de plus ?
Non, je suis pas d'accord. Non, je fais...
Oh non ! C'était on veut de l'ordre, enfin !
C'était une blague.
Bah, merci de faire connaître, parce que alors, moi, je suis carrément pas du tout là-dedans. Moi, Internet, c'est très limité, mon utilisation et mes connaissances. Mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, de ramener ces gens-là qu'on connaît pas forcément. Effectivement, c'est tout ce que t'as dit là. Et sans oublier toutes celles et ceux qui sont dans l'ombre, qu'ils resteront et qui pourtant font vachement, vachement avancer la société, je pense.
Clairement.
Eh ben...
Et musique ?
Eh ben, allons-y. Hands and knees, I take a breath, wondering about life and death. People falling in the name of God, shot by hate. Are you now raise the faith of love? They trample on ancient wisdom, 'cause we've got no angels now, just soldiers, no justice now. It's not a lie. There's nothing else between the lines now. Just love. This is a message to mankind. It's not a truth, it's not a lie. There's nothing else between the lines now. But now, just love.
C'est beau. De retour sur La Causerie, Radio Canu, 22h à 23h tous les dimanches soirs. Et on vient de s'écouter, donc, alors, Hop, c'est là. Skip the Use, c'est The Story of God and Men. C'est une reprise en fait qui a été faite par le comité des reprises et le chanteur de Skip the Use. Voilà. Alors, j'aime pas du tout l'original, mais je trouve que cette reprise là est magnifique. Voilà, c'est tout.
C'est vrai.
Et donc Fab, toi tu vas nous parler de...
Eh bien, je vous parle de discrimination et de déclassement, mais vous allez voir, c'est assez marrant ce qui s'est passé ces derniers temps. Eh oui, je peux dire marrant, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, c'est pas le déclassement, c'est marrant. Hein, c'est... En fait, ça commence par une interview qui tue. Je l'appelais ça comme ça. Alors, en fait, c'est Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités, qui a donné une interview autour des notions de pauvreté, de déclassement et de misère ressenties et des ressentis des difficultés de la vie. Là, de cette interview à Slate, qui est un, news magazine en ligne. J'ai lu ce qu'il disait Slate. Voilà. Et donc voilà. Et lui, en fait, il a jeté un petit pavé dans la mare en disant, aujourd'hui, on ne voit les inégalités qu'avec les yeux des hauts diplômés. Invisibilisant de fait la misère et les difficultés de la vie des moins diplômés. Alors bien sûr, lui, il ne pensait pas créer une polémique en disant ça, et ben, je peux vous assurer qu'il en a créé une, parce que beaucoup de gens lui sont tombés dessus en disant que non, c'était pas vrai, et que tout ça. Alors je me suis dit, quand même, je vais essayer de chercher un petit peu pourquoi le monsieur disait ça. J'ai lu son interview, je vous invite à le faire, vous allez sur Slate, vous tapez Louis Morin et vous trouvez l'interview. Mais surtout, je suis repris un petit peu des exemples qu'il donnait, j'ai essayé de les élargir un petit peu pour qu'on voit pourquoi il avait cet aspect-là. Alors j'ai commencé par l'exemple le plus criant, c'est l'emploi. Alors il le dit, et je vais le dire un peu à sa façon, c'est que l'emploi c'est devenu une valeur cardinale de notre société. C'est-à-dire qu'avoir un emploi, c'est sortir du déclassement. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit partout, il n'y a pas de problème. Le souci c'est que cette valeur-là, en fait, elle est neutralisée, et qu'au final, on considère que le PDG d'une multinationale qui a un emploi, ou l'employé à temps partiel chez Lidl qui est caissière, en fait c'est pareil. Parce que finalement ils ont un emploi tous les deux, et donc c'est bon, ils sont sortis du déclassement. On voit bien que c'est pas vrai dans les faits, mais malheureusement, en fait, quand on parle aujourd'hui d'emploi, c'est comme ça qu'on parle. C'est-à-dire que le fait d'avoir un emploi, c'est tout se vaut, quoi. Alors, le problème, c'est que depuis un certain nombre d'années, toute l'attention presque est portée dans les médias, ainsi que dans souvent les milieux militants, sur le fait que quand on sort des études, c'est pas facile de trouver un emploi. Alors j'ai repris les chiffres, parce que c'est là que ça devient intéressant, parce que Louis Morin, il dit, il faudrait que les gens ils réagissent un petit peu, qu'au final, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il raconte, et que l'impact n'est pas le même pour quelqu'un qui a un bac plus 8 et quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous voyez, tout simplement ça. Et en fait, les faits, ils sont têtus, parce que c'est vrai ce qu'il dit, c'est que la période de galère pour trouver un emploi fixe chez les bac plus 5 à bac plus 8, elle est en moyenne de 4,6 ans. Voilà, donc il faut 4,6 ans pour trouver un CDI, en gros. Sauf que dans cette période de galère, le chômage représente moins de 15% du temps. Voilà. Si vous prenez une personne qui sort sans diplôme ou avec un CAP ou un BEP du système scolaire, dans la même période suivant la fin de sa scolarité, donc 4,6 ans, le chômage va représenter 33% du temps. Donc déjà, on voit que la difficulté n'est pas la même. Et puis, on va se le redire, c'est pas pareil d'être au chômage quand vous êtes mis au chômage en ayant un salaire, par exemple, de 2000 euros par mois, quand vous êtes mis au chômage, quand vous êtes au SMIC. Vous voyez, c'est donc la difficulté, et le temps de chômage est plus élevé chez les personnes moins diplômées. Donc déjà, c'est un exemple typique que, on ne vit pas les mêmes choses, selon si on a des diplômes ou pas. De la même façon, une personne qui galère pour trouver un emploi avec des diplômes supérieurs verra très vite, une fois en emploi, son niveau de vie grimper en flèche. Et donc, en fait, les années de galère sont très, très vite effacées. C'est ce que, d'ailleurs, il souligne dans son interview aussi. Et en fait, moi, j'ai cherché, tout simplement, le salaire moyen des personnes à bac plus 5 en France est, par exemple, de 3,5 fois le SMIC. Voilà. Bon, c'est un salaire moyen, c'est pas un salaire médian, donc faut se méfier, ça veut dire qu'il y en a qui touchent forcément moins que ça. Mais on voit bien qu'il y a quand même une différence. Alors que une personne sans diplôme ou avec un BEP ou un CAP, voire un bac pro, et là je vais enlever la notion bac pro parce que j'ai que BEP, CAP dans les chiffres, et lui il va être au SMIG environ 34 ans en moyenne. Donc on voit bien que la différence n'est pas tout à fait pareille et que la durée de galère n'est pas la même. Alors sachant que le SMIC c'est le salaire de base, et il faut savoir aussi que sur les personnes qui sont donc avec des BEP ou CAP ou qui ont un bac pro, et là j'ai le chiffre avec les bac pro, plus de 27% sont à temps partiel. Ce qui est, pour les bac plus 5 à bac plus 8, une extrême minorité. C'est un peu moins de 5%. Donc on voit que c'est pas tout à fait pareil.
C'est souvent un choix en plus pour
oui,
ceux
c'est ce que j'allais
bac
dire.
Plus 5. C'est un choix alors que les autres, c'est imposé.
C'est subi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, c'est que dans ces 27%, c'est généralement subi et pas choisi. Donc voilà, donc c'est pour montrer que ben oui, c'est pas pareil. C'est-à-dire que oui, on va galérer, mais par contre, on va très vite oublier la galère, parce qu'assez vite, on va se retrouver avec des moyens qui nous permettent de l'oublier. Je vais donner un autre exemple. Il y a quelques temps, on a parlé de... Ça avait fait des gros titres dans les journaux. On a dit un SDF sur 5 avait au moins un bac plus 2. Vous vous souvenez, ça avait fait même la une. Pujadas avait fait son ouverture de journal avec ça. Mais ça devait avoir là le coup. Hein. Sauf que le problème, ben on nous présente ça comme si c'était extraordinaire et que ça démontrait que les diplômes ne protégeaient plus de rien. Bah, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Parce que si on reprend les chiffres, dans la population active actuelle, c'est-à-dire les gens qui sont en âge d'aller travailler, hein, c'est ça la population active, elle est constituée à 45% de personnes diplômées au-delà du bac, qui ont plus que le bac. Hein, donc 45% des gens ont entre bac plus 1, on va dire, et bac plus 8. Et bien, le problème, c'est que si les diplômes ne protégeaient plus, comme c'était affirmé, et bien, en fait, on devrait avoir la même proportion chez les SDF. C'est-à-dire que 45% des SDF devraient être diplômés. Sauf qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'est que 1 SDF sur 5. Donc, on voit bien que la déclassification ne touche pas les gens de la même façon, selon si on a au départ des diplômes ou si on n'en a pas. Et c'est là que ça devient un petit peu cynique, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il soulignait dans son interview et ce que d'autres personnes ont souligné, ce genre d'article aurait dû être plus honnêtement intitulé « 4 SDF sur 5 est sans diplôme ou en dessous du bac ». Parce que ça, par contre, c'est une réalité. Et qu'on voit bien que là, effectivement, il y a une vraie déclassification déclassement qui se fait sur les personnes qui sont qui n'ont pas de diplôme. Et voilà. Donc c'est bien le manque de diplôme qui est le premier facteur d'exclusion en France aujourd'hui. Autre exclusion mise de côté, racisme, homophobie ou autre, mais en termes de purement d'emploi. Mmh. Alors le truc c'est que ben il fallait parler des problèmes de ceux qui écrivent en fait, parce que le problème est là. C'est-à-dire que je renvoie à plusieurs articles que j'ai lus, mais je dis en gros, le problème, c'est que les gens qui écrivent ont souvent bac plus quelque chose et parlent souvent de ce qu'ils connaissent au final et sont choqués par le fait que des semblables à eux-mêmes soient touchés par le déclassement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on arrive à ce genre d'article. On oublie, alors là, je vais le dire aussi, on oublie un peu vite que quand on fait des études, on est plus armé que quand on n'en fait pas. Bah oui, parce que le savoir est une arme, hein, c'est pas une grande nouveauté. Et plus on monte dans les études, et en fait, plus on est armé en réalité. Alors, un exemple tout bête, hein, la rhétorique, c'est une habitude de langage, la capacité à poser son langage, la capacité à répondre à des attaques. Et ben en fait, on sait que la rhétorique, elle arrive généralement post-bac, c'est-à-dire que c'est, elle est enseignée en fait en tant que telle, plutôt à partir de bac plus 2, voire bac plus 5.
Alors, je te coupe ou pas ?
Oui, vas-y.
Moi, en fait, je ne savais pas que ça s'apprenait la rhétorique. Et c'est un jour, en travaillant avec des meufs qui étaient à l'université, qui m'ont dit, mais en fait, si, ça, on l'apprend. D'accord, en fait, oui. C'est vachement bien. C'est effectivement, ça t'arme à mort dans cette société, quoi.
C'est ça. Donc déjà, rien que ça, ça va forcément vous armer plus facilement pour être entre guillemets, comme on dit, plus souple dans le monde de l'emploi, parce que vous pouvez vous adapter plus facilement. Un simple exemple, un CAP chaudronnerie. Aujourd'hui, vous tapez CAP chaudronnerie dans n'importe quel moteur de recherche d'emploi, on vous offrira que des offres de chaudronnerie. Vous voyez, c'est un peu basique, mais c'est comme ça. Par contre, si vous avez une licence de psycho et que vous mettez que vous avez une licence de psycho, que vous allez sur par monster.fr ou Pôle emploi ou APEC.fr, et ben vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir des postes en RH, en management, en prospective, etc. etc. C'est-à-dire que l'accès au marché de l'emploi est beaucoup plus ouvert que si vous n'avez qu'un, entre je mets qu'un entre guillemets, BAP de chaudronnerie.
En plus du fait que le jour où il n'y aura plus du tout de boulot dans la chaudronnerie, le mec il n'aura plus du tout d'avenir,
c'est
en fait,
ça.
Parce qu'il ne saura rien faire d'autre.
C'est ça. C'est exactement.
Il n'aura rien appris à faire d'autre, c'est pas qu'il sait pas faire d'autre, mais c'est qu'il n'a pas appris.
On enferme une catégorie de personnes, en fait, à partir du moment où les gens sont en dessous du bac, on ne les arme pas, on ne leur donne pas les outils pour pouvoir un jour peut-être se reclasser ou faire des formations transverses ou des choses comme ça. Et ça, c'est clairement pensé. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Ces armes, le souci, c'est que si elles peuvent aider pour s'en sortir dans la vie, elles sont aussi un moyen de prendre le pouvoir ou de se mettre au centre des choses. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à voir les problématiques de déclassement uniquement aux yeux de ceux qui écrivent ou parlent du déclassement, et qui généralement sont universitaires, donc on bac plus quelque chose. Et le souci, c'est que c'est soit pas malgré nous d'ailleurs qu'on prend le pouvoir, soit on en a vraiment envie, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment bien ça. Et ça, c'est dans n'importe quel milieu. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a une sorte de prise en main de la parole, de la pensée, des sujets, et notamment dans les milieux militants. C'est-à-dire que d'un seul coup, la façon de parler, la façon dont on doit aborder les sujets, la façon dont on doit écrire, la façon dont on doit s'exprimer, et ben tout ça est dicté en fait par des gens qui sont justement armés pour fixer les règles du langage. Le problème, c'est que c'est pas fixer les règles pour les partager, ces règles. C'est fixer les règles pour dire c'est comme ça qu'on doit parler. Or ça, en fait, c'est déjà une sorte de prise de pouvoir, et c'est une prise de pouvoir au détriment de ce qu'on appelle les populaires. Et les populaires, c'est pas quelque chose de négatif, hein, je le rappelle, pour ceux qui croient que c'est un gros mot. Les populaires, c'est les gens du peuple.
Hein. Oui, ceux qui mettraient populaire égal à Nouna.
Oui, voilà, mais j'y venais. Je vais en parler. Je vais en parler juste après. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est que dans la classe politique, il y a une surreprésentation des hautes études. Hein, avocat, médecin, dentiste, tout ça. Enfin voilà, les gens, ils ont fait plein de bien. Ou alors l'ENA, hein, carrément. Hein, voilà. Par contre, il y a des études sociologiques qui ont été faites sur les milieux militants, de la gauche de gauche ou les milieux anarchistes, et qui prouvent qu'il y a aussi dans ces milieux-là une surreprésentation des bac plus X. Alors bac plus 2, plus 4, plus 5, plus 8. Et que rarement les textes sont écrits par des gens ne maîtrisant pas correctement la langue. Donc c'est-à-dire que on interdit l'expression des gens qui n'ont pas déjà l'outil linguagier. Vous voyez, c'est un petit peu problématique, hein. Parce que entre corriger un texte qui serait écrit par quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, ou dire « Oh non, mais fais-le pas, je vais le faire parce que moi je maîtrise », c'est pas tout à fait pareil. Voyons, prise de pouvoir
non,
ou pas.
On te dira non, mais on va t'alléger d'un truc, on va le faire, ça sera plus rapide.
Voilà, on peut faire ça aussi, ouais, tout à fait. C'est une méthode en fait. Et c'est là en fait qu'on note qu'il y a une sorte de mainmise, certes parfois involontaire, mais qui questionne. Comment parler d'autodétermination si toutes les ouvertures sont prises par le même type de personne? Parce que c'est ça en fait le problème face auquel on se retrouve. Et on se retrouve face à ce problème dans la société en général et dans les militants en particulier. Et là, c'est un peu plus embêtant. Donc je vais continuer avec ce qu'on appelle la haine du populaire. Alors ça, je voulais le caser parce que c'est tellement beau. Alors je vais donner un exemple justement avec le cas Hanouna, hein, t'en parlais, Cyril Hanouna, hein, qui s'est vautré dans la plus crasse des bêtises et dans l'homophobie ordinaire la plus bancale et la plus crasseuse qui soit. C'est clair et c'est franchement gerbant. Je veux dire, il y a pas photo, voilà. Problème, c'est qu'on a pu lire ici ou là, produit par des groupes politiques ou des personnalités politiques, qu'elles soient anarchistes, d'extrême gauche ou de gauche, des propos surprenants lorsqu'on dit avec mépris une phrase du genre « Mais Hanouna parle avant tout aux idiots, il fait de la télévision populaire ». Voilà. Donc quand vous dites ça, en fait, vous êtes juste en train de dire que les populaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu l'accès à l'instruction que vous, qui écrivez ce texte magnifique, avez, ce sont des idiots. Mais pourquoi en fait? Pourquoi il serait plus idiot que vous? Et puis surtout, ceux qui n'ont pas la chance d'être riches de temps, c'est-à-dire d'avoir le temps, comme vous, d'écrire des textes, de les pondre hein, sur Internet, de passer 8 à 10 heures sur Facebook et sur vos blogs, ils ne sont pas plus idiots que vous, ils ont juste un métier qui ne leur permet pas. C'est-à-dire c'est tout à fait ça en fait, en général, le problème. Et surtout, d'où il sort ce mépris du populaire, si c'était une position dominante, acquise grâce aux études faites, études généralement payées quand même par les impôts de ces fameux populaires idiots. Donc, il serait peut-être temps de s'en souvenir de ça aussi, hein, que les universités et tout, c'est pas en réalité gratuit, c'est payé par le bien commun. Hein. Donc c'est-à-dire que le gars qui paye, c'est pas d'impôts, mais qui paye quand même au moins de la TVA, vous voyez, lui, il a un petit peu rempli les caisses pour que vous puissiez faire des études. Ou la nana d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est ça, et on sent cette espèce de mépris dans ces phrases-là, un peu facile, qui sont lancés dans nos milieux, très simplement, comme ça, quand même. Hein. Voilà. Et cette dérive, elle est au fond pas rare et elle se ressent dans tout, dans les textes écrits par et pour des gens maîtrisant la langue. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des textes militants, ils sont abscons, complètement. Ils sont écrits, j'ai employé volontairement le mot abscons, vous voyez. C'est pour dire, non, en fait, ils sont illisibles, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas bac plus 22 en langue militante sont incapables de les lire parce qu'on n'est pas foutu de mettre un astérisque, ne serait-ce que pour expliquer un mot compliqué ou un mot nouveau qu'on va utiliser. Et puis, ils sont surtout généralement bourrés d'anglicisme. Et les gens oublient souvent que l'anglicisme, c'est violent pour les gens qui sont au plus bas de la société. Pourquoi? Parce que les gens qui sont au plus bas de la société, l'anglicisme, c'est la langue du maître au travail. C'est la langue du chef, c'est la langue du patron. C'est le patron qui parle avec des anglicismes dans les entreprises. C'est pas l'ouvrier. C'est très rare. Hein. Moi, j'en fréquente quand même pas mal. Rarement, ils emploient du dating ou des trucs comme ça. Ils sont rarement challengés, vous voyez. Enfin, c'est des, très rare. À la machine à café, ça m'est pas arrivé souvent d'entendre comme ça. du coup, on a une sorte de dérive qui se crée, c'est que les sujets étant aux mains de ceux qui ont fait des études, on parle avant tout des problèmes de ceux qui ont fait des études. Et finalement, ben, on passe à côté complètement de ceux qui sont vraiment dans le déclassement et vraiment dans la misère. Je vais juste rappeler ici que pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, elles représentent 85% des personnes qui sont dites dans la misère en France. C'est-à-dire qu'elles représentent 85% des 2,2 millions de personnes qui touchent moins de 535 euros par mois en France. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'en réalité, elles sont touchées de plein fouet par le fait de ne pas avoir de diplôme. Alors il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais il reste ces 15%. » Hein, 85%. Alors je vous rassure, dans les 15% qui restent, en réalité, ils sont majoritairement détenteurs d'un BEP ou d'un CAP. Donc on n'est pas dans des gens qui ont des bacs plus quelque chose, à de rares exceptions près. C'est important de le noter parce que ces personnes-là, on en parle très peu ou on en parle peu, pas, et surtout on leur laisse rarement la parole, surtout dans les milieux militants. Ou alors on va les voir avec un micro et on se dit « Tiens, est-ce que tu pourrais parler pour que je puisse ensuite, moi, décrypter ce que tu as dit ?»
Une voilà. étude sociologique.
Une étude sociologique permanente. Ça, ça s'appelle la sociologie permanente et c'est une horreur en réalité parce que c'est d'un mépris de classe terrible et on s'en rend même plus compte en fait à force. Voilà, c'est un peu problématique. Donc je voulais le souligner ce soir. Je vais quand même aussi souligner qu'on dirige souvent les milieux militants ou les milieux associatifs comme maintenant on dirige dans les entreprises, sans même s'en rendre compte. On utilise les mêmes outils, la conciliation, les réflexions collectives, les moments fun, vous voyez, tout ça en fait, et ben c'est en train de... Mais ça vient du monde de l'entreprise au départ, et c'est passé par les universités ou les écoles de commerce, ou les écoles, ou les grandes écoles. Donc vous voyez, en fait, au final, on se rend compte qu'il y a une certaine porosité. Le problème de tout ça... C'est que le mépris du populaire et des populaires et des populations les plus démunies bah fait qu'au final, à force de les mépriser, on finit par ne même plus comprendre pourquoi elles nous détestent. Pourquoi elles détestent les gens qui parlent avec des anglicismes, qui utilisent des formules pompeuses et complexes, qui en fait ont toujours l'impression de prendre les gens de haut, parce que franchement, c'est tellement fun de montrer qu'on a de la culture, hein, parce que c'est comme la confiture, on l'étale un maximum. Et puis, ben, du coup, on comprend pas pourquoi ces gens se jettent dans les bras du Front National, qui leur semble être une voie de sortie contre ces élites, entre guillemets. Et pourquoi, en fait, on continue à parler comme ça? Pourquoi on continue à employer des mots et à inventer des mots? Pourquoi on ne parle pas simplement aux gens et qu'on se parle pas simplement entre gens? Quel que soit notre niveau d'études et notre niveau, de connaissances ou scolaires. Et puis, encore une fois, je vais reprendre une phrase d'une certaine Louise Michel. Ah, celle-là, qui disait « Quand on a appris quelque chose, on l'a pas appris pour soi, on l'a appris pour le partager. Si on ne partage pas, on ne vaut pas mieux que les bourgeois qui nous oppressent. » Voilà.
Je suis fan.
Donc, voilà, c'était juste un petit tour d'horizon autour de tout ça.
Mais alors, moi, tu vois, ça me parle beaucoup parce que, bon, déjà, je vous remercie tous, ici, universitaires, de recevoir un mec, un CAP.
Non, j'ai oublié de le dire, moi j'ai un bac plus 2, parce que non, je voulais dire d'où je parlais, c'était quand même pour...
Non, mais ouais. Et que c'est intéressant, parce que alors moi j'ai ce regard-là, et j'ai ce ressenti-là foncièrement que dans beaucoup de milieux militants, anards, et peut-être plus d'extrême-gauche que chez les anards, il y a vraiment ce mépris-là en fait, il y a vraiment quelque chose qui pue en fait, et que... Ouais, en fait, tu te rends compte que déjà, ces milieux, il y a une surreprésentation, comme tu le disais, des surdiplômés. Enfin, c'est un truc de dingue.
Bah, toutes les études le prouvent.
Et qu'on en revient à un truc, c'est-à-dire que c'est des bourgeois qui viennent me dire à moi comment ma vie, elle est pourrie, en fait.
Alors, pas forcément des bourgeois, parce qu'on peut fait des études sans mais par contre...
Chargés de diplômes et d'études et de bagages.
Mais surtout qui ont fait des écoles ou des universités qui, elles, sont tenues par une certaine forme de bourgeoisie et qui ont une certaine forme de vision de la société, de la vie. Ça, c'est important de ne pas l'enlever.
Oui, et qu'après, moi, mon propos, c'est pas du tout dire « Ouh là là, il faut, amis CAP sans diplôme, exécutons tous ceux qui ont des diplômes. » Non, du tout. Mais par contre, je pense qu'il est foncièrement, je pense fondamental, mais vraiment, selon moi, c'est fondamental, parce qu'on a une refonte des milieux militants, on est dans une reformation de toutes ces idéologies d'extrême-gauche ou anarchistes, ça, c'est un peu en ébullition tout ça. Je pense que s'il n'y a pas de remise en question sur vos manières de nous approcher, je vais me mettre dans l'eau parce que foncièrement j'en suis... Et ben en fait, à un moment donné, ouais, vous étonnez pas qu'on vous fasse des gros doigts, quoi. Et que là encore, il y a une domination qui est sous une forme très dégueulasse. Parce qu'autant, peut-être que chez le populo, quand t'es pas d'accord, tu montes la voix, on va pas se mettre des coups, mais tu montes la voix et on sera pas d'accord. Le problème, c'est que dans ces milieux qui sont tellement armés, en fait, ils viennent avec des sourires et ils te la font à l'envers. Donc en fait, vous ressemblez, ceux qui pratiquent ce genre de truc, à nos gouvernants, à nos dirigeants en fait.
Bah, c'est ce qu'on apprend.
Vous nous regardez avec un sourire et en fait, vous nous arnaquez bien, bien, bien. Donc voilà, essayez de vous remettre un tout petit peu en question, s'il vous plaît, les gens.
Bah, c'est surtout quand on a des outils, il faut savoir les partager, puis les remettre en question, savoir s'ils sont utiles ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée que je voulais développer là, parce que je trouvais que c'était assez intéressant quand même de se poser ce genre de questions-là, surtout comme tu le dis, dans cette période de refondation totale en ce moment de toute la vie politique. C'est beau, hein? Ouais. Non, non. Stan, il est là, il fait allez, on veut mettre la musique. Bon, bah allez, on met la musique.
Et la sous-préfecture fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnarisés. Je suis un soir d'été. Aux fenêtres ouvertes, les dîneurs familiaux repoussent leurs assiettes et disent qu'il fait chaud. Les hommes lancent des rots de chevaliers de thon. Les nappes tombent en miettes par-dessus les balcons. Je suis un soir d'été. Aux terrasses brouillées, quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Un soir d'été, de lourdes amoureuses aux odeurs de cuisine promènent leur poitrine sur les flancs de la Meuse. Il leur manque un soldat pour que l'été ripaille et monte vaille que vaille jusqu'en haut de leur bas. Je suis un soir d'été. Aux fontaines, les vieux bardés de référence rebroussent leur enfance à petits pas pluvieux. Ils rident toute une dent pour croquer le silence autour des filles qui dansent à la mort d'un printemps. Je suis un soir d'été. Il fleuve des ivresses, l'été a ses grands-messes et la nuit les célèbre. La ville aux quatre vents clignote leur mort. Inutile et passant de n'être pas un port. Je suis un soir d'été.
Dans la causerie dimanche 22-23h, c'était l'immense Jacques Brel avec Je suis un soir d'été. C'est une de mes chansons préférées de Brel.
Et je m'insurge, j'avais plein de trucs à dire, oui. Et on m'a coupé en plein vol. Alors, et depuis, après, il y a eu une musique super rapide. Bien et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire.
Donc voilà. Bon, bah merci. Ben,
c'était utile.
Voilà. Merci Stan. C'était bien.
Ça m'a fait plaisir. Allez, bonne soirée. Bisous.
Et ben, on va
trois brèves.
Oui, on va terminer très rapidement par des brèves. Il y a comme d'habitude, le lundi, c'est permanence juridique de soutien aux sans-papiers. 18h30 à 20h, c'est toujours à la Lutine, au 91 rue Montesquieu. Que dans le 7e. L'autre rendez-vous, c'est le lundi, c'est le syndicat Santé Sociale 69 qui rejoint l'appel à faire grève et à manifester devant l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au 241 rue Garibaldi, dans le 3e arrondissement. Donc lundi de 11h à 14h. Je vous lis vite fait quand même les revendications parce que voilà. C'est non au démantèlement de la psychiatrie adulte et de la pédopsychiatrie de secteur. Non aux fermetures de lits, d'unités, de foyers, de la radio, des structures de proximité. Non à l'abandon des populations ou non des économies. On y revient toujours, vous voyez. Pour la défense de la psychiatrie publique et secteur. Pour l'accès de toutes et tous aux soins et à la prévention. Non à l'institutionnalisation du mépris et de la souffrance au travail. Non aux réductions d'effectifs, aux 49,5 suppressions de postes et aux économies de fonctionnement, non remplacement de maternité, de maladie, gel de postes vacants, etc. Seul un rapport de force pourra faire céder les gouvernements successifs qui ne cherchent qu'à privatiser pour le profit d'une minorité. Union, action, autogestion, et c'est signé pour l'instant, le rassemblement est appelé par la CGT Vinatier, CFDT Vinatier, le collectif pédopsychiatrie Vinatier et le collectif pédopsychiatrie Saint-Jean-de-Dieu. Voilà qui était quand même important, je trouve, à vous dire.
Une autre info, si tu me permets. Le 17 juin, ce sera la Gay Pride, la marche des fiertés, pardon, maintenant.
T'es un peu en avance.
Oui, je suis un peu en avance, mais c'est juste pour dire que l'inter-LGBT qui organise la marche des fiertés a des problèmes de fric cette année, et parce qu'il y a plein de subventions qui ont sauté. Donc, allez sur leur site et ils font un appel aux dons. Voilà, si vous pouvez aider, c'est pour pouvoir avoir déjà un char visible dans la marche des fiertés, mais aussi et surtout le fameux forum des associations à la fin pour pouvoir le tenir correctement.
Et je voulais rajouter qu'ils ne cherchent pas que de la thune aussi, parce qu'ils cherchent, je crois, du monde pour sécuriser, etc., la Gay Pride. Et que, voilà, à nous toutes et tous de faire ce qu'on peut.
À notre niveau.
C'est ça.
Mais on vous redonnera les infos de la quinzaine, tout ça. Enfin, oui. Ça va commencer, on vous donnera tout ça dans les brefs.
Alors, vu qu'il est 23h06, on va pas rester très très tard. Donc, on vous propose derrière de se quitter, non pas avec un titre qu'on aura choisi, mais de vous remettre et de vous accompagner vers votre nuit avec les bandes continues de Radio Canu.
Ce sera peut-être un titre bien, on sait pas, c'est au pif.
Ah ben, c'est un peu la roulette. Ouais. C'est ça qui est bien.
Tout est possible.
Mais oui, tout est possible parce qu'on entend de tout sur Radio Canu.
Bonne chance.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la causerie, tous les dimanches de 22-23.
C'est voilà. Ça.
Et des bisous, la bonne nuit, tout ça.
Et passez une bonne semaine.
Oui.
Et top à la roulette.
Bisous, ciao.